Virtual Africa. New generation.
Sur Afrique virtuelle, je m'appelle Yvon Tina et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Oulimata Gueye qui est journaliste et commissaire d'exposition indépendante à Paris. Bonjour Oulimata.
Bonjour Yvon.
Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît?
Oui, alors donc je suis, comme vous l'avez dit, commissaire d'exposition indépendante. Je m'intéresse tout particulièrement aux arts des médias et aux technologies numériques depuis pas mal d'années. Et depuis quelques années, je me suis concentrée sur ce qui se passait sur le continent africain. Et je résume, mais c'est vraiment un résumé, je résume en disant que je m'intéresse aux impacts culturels des technologies numériques sur le continent africain.
Une fameuse carousel, acteur numérique et
utopique. J'aimerais bien revenir avec vous, si vous voulez bien, sur quelques-uns des projets dont vous avez été à l'initiative et sur votre parcours, en tout cas dans le monde artistique. Votre implication dans quelques projets fameux qui sont Bateau Phare, le carousel infameux, je pense, une fameuse carousel. Africa SF, Afro cyberféminisme, etc. Est-ce que pour chacun de ceux-là, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre implication dans ces projets et en quoi ils consistaient?
Alors, le bateau phare, c'est pour donner un ordre d'idée au niveau du temps, c'est à peu près 98-2002. Le bateau phare, c'est un bateau phare, comme son nom l'indique, qui s'était ouvert à Paris. En face de la BNF, dans le 13e arrondissement. Et c'est un lieu qu'on a ouvert collectivement. On était donc plusieurs personnes à s'occuper de la direction artistique. C'était un espace qui était d'un côté avec un espace commercial et puis de l'autre un projet artistique. Le projet artistique, on l'a mené donc de 1998 à 2004 autour des technologies, autour des cultures populaires, des cultures urbaines. C'était en fait le début de l'essor, en fait la seconde grande vague, on va dire, de la musique électronique de sa popularisation. Mmh. Et en fait, on trouvait qu'il y avait peu d'espace à Paris qui diffusait cette culture. Donc, on a eu envie de se concentrer sur ça. Alors, bien entendu, c'était surtout la musique au départ. Donc, c'est surtout la musique qui a popularisé, on va dire, les pratiques artistiques numériques. Et donc, on a fait, on avait surtout un festival qui s'appelait Bateau Phare Recherche. On faisait pendant une dizaine de jours, on faisait un focus sur une ville particulièrement reconnue sur ces pratiques autour justement des labels indépendants, des cultures électroniques. Et moi, je m'occupais ou du cinéma expérimental aussi. Moi, je m'occupais plus particulièrement d'un programme de résidence d'artistes où je demandais à des artistes de venir travailler dans le 13e arrondissement qui à l'époque était encore un immense chantier. Et en fait, c'était vraiment le croisement très souvent de deux regards, le regard d'un artiste sur en fait un espace en mutation. J'ai travaillé sur ces espaces qui mutent d'avoir un regard croisé entre une pratique artistique, une pratique sociale, politique, historique.
Et comment et à quel moment est-ce que l'Afrique émerge dans ce processus ?
C'était aussi le début des histoires qui ont fait un peu la notoriété de tout ça autour de Ushahidi au Kenya. Et
oui.
Puis très vite après M-Pesa.
Je me suis demandé si vous aviez un lien personnel ou affectif à l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a fait y retourner en fait ?
Oui. Alors moi je suis née au Sénégal et j'ai grandi au Sénégal. Oui. Donc je suis sénégalaise en fait.
Franco-sénégalaise, j'imagine.
Alors, franco-sénégalaise, mais comme j'ai grandi au Sénégal, je me sens...
Plutôt... Non, il n'y a pas... Voilà. Un projet très important par lequel je suis venu à vous, qui s'appelle Xam Xam. Qu'est-ce que Xam Xam, en fait ?
Alors, Xam Xam, c'est un mot wolof.
Ok.
On prononce avec le re, le guttural. En fait, ça veut dire le savoir. C'est okay. En fait une association... que je porte depuis quelques années, mais en fait, qui ne se développe pas comme je voudrais, parce qu'il faudrait plus de monde pour la développer, qui justement est un peu le réceptacle de ces recherches sur les pratiques artistiques et numériques sur le continent africain.
Ok. De prime abord, comme ça, j'avais l'impression que c'était un projet de presque de curation numérique.
Oui, oui.
Où vous faites du commissariat, mais en ligne, en fait.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup diffusé, mais j'ai travaillé sur un Tumblr. Hein, donc, la technologie est vraiment basique. Hein, ça n'a rien à voir. Mais où, effectivement, j'ai appelé ça comme une géographie des centres d'intérêt plastique. Effectivement, j'étais un peu à l'affût de...
Oui.
Ça, c'est 2012, 2013, 2014. Les choses bougent énormément sur la question des technologies numériques en lien avec le continent. En fait, on peut avoir quelque chose, on peut sentir quelque chose ou comprendre un virage.
Mmh.
Et puis, en fait... En l'espace de 2 ou 3 ans, les choses vont radicalement changer. Je trouve qu'on est dans une période où, bon, alors sur toutes les technologies numériques partout dans le monde, hein, ça c'est pas propre à l'Afrique de toute façon.
Ouais.
Mais je veux dire que le regard sur la question des technologies numériques sur le continent est quelque chose qui bouge très très vite avec souvent des grosses tendances. Hein. Et effectivement. Ramram, c'était une plateforme d'exploration plastique de ces centres d'intérêt. À un moment, je dirais, de manière totalement intuitive, peut-être, à un moment où se croisent peut-être de nouvelles esthétiques et un regain, je pense, je ne dirais pas un regain d'intérêt parce que c'est de la diaspora, parce que ça, il faudrait vraiment que ça s'étaye sur des choses. Moi, mes connaissances, elles sont très empiriques et très intuitives. Hein. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je m'intéresse au travail des artistes et que les démarches sont à la croisée, en fait, de quelque chose qui serait, qu'est-ce qu'en disent les chercheurs, mais très vite, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce qu'en disent les pratiques plastiques, en fait, ou les pratiques sensibles. Et il me semble qu'à un moment donné il se développe un intérêt plus plastique de la diaspora aussi sur l'Afrique. Peut-être qu'à un moment certains ont parlé d'un renouveau de l'afro-futurisme aussi.
Oui.
Moi j'en ai très très peu parlé parce que je pense que c'était pas du tout ça, ou en tout cas ça risquait de mettre tout ça dans un même panier et moi ça m'intéressait pas du tout. Mais peut-être quand même quelque chose entre un intérêt de la diaspora pour des univers plastiques liés à l'Afrique et du côté de l'Afrique, peut-être un renouveau de tout le champ plastique ou visuel lié à Internet, en fait. Et c'est là aussi que je me rends compte que de plus en plus, il y a des artistes ou des écrivains ou des plasticiens qui revendiquent vont explorer du côté de la science-fiction ou de l'esthétique de la science-fiction pour travailler. Et voilà, je me suis du coup, de fil en aiguille, intéressée plus spécifiquement aussi à ce que j'ai trouvé être une émergence de la science-fiction sur le continent africain. Et de me demander, mais qui c'est et qu'est-ce que ça veut dire en fait, de quoi c'est le nom.
Ok, vous avez anticipé ma prochaine question, mais on reviendra effectivement sur l'émergence de la science-fiction et les problématiques qu'elle pose dans la seconde partie. Mais je voulais vous demander quelles sont les tendances artistiques que vous avez vues à l'œuvre ou que vous voyez à l'œuvre justement dans l'art africain contemporain, celui qui fait usage des technologies en fait.
Alors, donc, il faut dire que moi, j'ai un angle de vue qui est très particulier parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup aux angles morts. En fait, je m'intéresse j'essaye de voir quelles sont les pratiques qui ne sont pas mainstream, en fait, qui ne sont pas celles qui sont dans les grands circuits. Alors, ni d'un côté des pratiques numériques, ni des pratiques de l'art contemporain. En fait, je suis plutôt intéressée à des choses qui, au départ, ne sont pas vraiment considérées comme importantes. Hein. J'ai aussi parlé de pas mal de pratiques populaires, parce que pas au sens, du film d'Hollywood ou de Black Panther, mais au contraire de l'inverse, c'est-à-dire comment des personnes vont utiliser des pratiques, vont utiliser les technologies numériques pour leurs besoins, pour leur quotidien, pour leur expression propre, et comment ça fait culture en fait, parce que ça veut dire quelque chose, parce que les personnes s'en emparent, parce qu'à un moment c'est de la représentation. Par exemple, moi je m'étais beaucoup intéressée à l'émergence de Nollywood. Et je m'étais amusée à superposer en fait la façon dont Chris Anderson avait, lorsqu'il avait sorti son livre sur la troisième révolution industrielle, au moment de l'émergence de l'imprimante 3D. Donc si je me trompe, c'est 2013 ou 2014. Donc lui, il est américain, il vient vraiment du monde des Fab Labs, des Hackerspace, de la Silicon Valley. Il explique qu'avec l'imprimante 3D, on va avoir une troisième révolution industrielle, parce que c'est terminé la production à des millions d'exemplaires du même modèle. On va assister à des petites unités de fabrication dispersées, artisanales donc, qui vont fabriquer à quelques milliers d'exemplaires des objets ou des produits qui vont correspondre à une demande extrêmement précise d'un petit groupe de personnes qui vont s'identifier à ces productions-là et qui vont apporter aussi bien de l'information dans l'outil de production que dans la diffusion, que dans la commercialisation du produit. Et il va expliquer que donc l'imprimante 3D, c'est l'outil numérique, la technologie, c'est l'open source, c'est-à-dire que tout le monde apporte de son énergie l'évolution de l'outil de production, et qu'en fait, les consommateurs sont les producteurs. En fait, ils sont tellement impliqués dans le circuit de production qu'ils sont à la fois producteurs et consommateurs. Je résume sûrement. Et en fait, je m'étais amusée à montrer comment Hollywood s'est développé exactement sur le même modèle, mais bien avant, en fait. Parce qu'en fait, Hollywood, ce sont des personnes qui ont une pratique très autodidacte de faire du cinéma, qui se sont servies.
Juste entre parenthèses, Nollywood, c'est le Hollywood nigérien, c'est bien ça.
Voilà, c'est ça. C'est l'industrie de la vidéo au nigérien, donc qui émerge dans les années 90, donc sur une pratique extrêmement autodidacte, qu'on dirait grassroots, et artisanale. Des personnes vont s'emparer des outils, entre d'ailleurs à l'époque, entre l'analogique et le numérique, puisqu'il y a les cassettes, les magnétoscopes, et puis de l'autre, c'est le début des logiciels semi-professionnels d'Adobe, de montage semi-professionnel. Mmh. Et en fait, en apprenant sur le tas, ils vont faire des films qui vont être directement et très très vite adressés à leur audience, et il va y avoir ce dialogue entre qu'est-ce qu'on a envie de voir et qu'est-ce que l'on va faire. Et en fait, le cinéma et l'industrie de la vidéo à Hollywood va grandir comme ça, avec cette porosité entre les consommateurs et les producteurs, cette question qui n'est pas open source, mais qui est la piraterie, alors qui est peut-être le mauvais côté d'open source, mais qui fait qu'en fait, on sait tout de suite, et on va beaucoup contribuer à copier un film, à l'améliorer, à en faire une version différente, etc. Et donc voilà, je m'étais un peu amusée à montrer comment en fait Nollywood est aussi le produit en fait d'une culture numérique en fait, peut-être un tout petit peu avant, mais fonctionne exactement comment on a un peu théorisé la culture numérique juste après. Et ce qui m'intéresse, c'est de se rendre compte que c'est pas du tout par le haut. Donc, ce n'est pas Google qui arrive, mais c'est plutôt des personnes qui vont s'emparer des outils numériques pour transformer la production artistique et culturelle.
Les utopies non alignées. Digital Imaginaries.
Alors on va faire un bond en avant justement et parler un peu de la récente exposition dont vous avez été la commissaire d'exposition pour le ZKM en Allemagne, un projet commun que vous avez réalisé avec Kertjosan et Faco Gessi. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et dire en quoi ce projet consistait?
Alors Digital Imaginary, un projet pour lequel j'ai été invitée en tant que commissaire, menée par le ZKM, effectivement. Donc ça, c'est à Karlsruhe, le Centre d'art et des médias en Allemagne. Kertjosan à Dakar, Faco Gessi, le festival dirigé par Tegan Bristow, et le Witz Art Museum par Fiona Rankin-Smith. Et les deux initiateurs du projet sont Julien Macardy et Richard Rothenburg, qui est au Weiser à Johannesburg. Okay. Donc, en deux mots, Digital Imaginary, c'est une enquête sur les imaginaires numériques à l'œuvre sur le continent africain.
OK.
À Dakar, donc avec Kertjosan et le Festival Afropixel, nous avons développé un aspect particulier des pratiques artistiques que j'ai appelé utopie non alignée, qui consistait à examiner les pratiques sur le continent africain qui refusent de s'aligner sur le modèle libéral technoscientifique à la façon Silicon Valley, qui se répand de manière extrêmement rapide sur le continent africain, mais qui refuse effectivement de dire nous ne voulons pas utiliser les technologies. Donc, on s'est penché sur des makers, des chercheurs, des artistes qui sont formés aux technologies numériques, mais qui critiquent l'hégémonie libérale du modèle des technologies et tentent d'inventer des pratiques. Des lieux, des recherches, des objets, des produits culturels qui sont plus en harmonie ou qui répondraient aux attentes des personnes sur le continent africain dans une perspective décoloniale. L'idée est de dire les technologies qu'on nous a vendues comme bousculant ou indifférente aux frontières, sont en fait encore le produit d'une hégémonie coloniale. C'est un colonialisme électronique et on va déconstruire en fait cette mythologie et voir dans quelle mesure à la fois la notion de la technologie et la question des technologies numériques peuvent être plus centrée sur des cultures du continent africain et sur l'histoire du continent, sur l'histoire des technologies du continent africain.
Effectivement, dans plusieurs de vos publications ou présentations, conférences, vous faites écho à cet impérialisme postcolonial qui se fait effectivement aujourd'hui par l'usage des écrans et des technologies qui modifient notre imaginaire ou du moins le colonisent, comme vous le disiez. Est-ce que dans le cadre de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'œuvres ou d'artistes que vous avez invités à présenter?
Par exemple, je pense que la démarche d'un binôme qui s'appelle Dike Ose, Azare et Yasmine Abbas, qui sont architectes oui. tous les deux, Dike Ose et ghanéen, Yasmine Abbas est franco-syrienne. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je connaissais le travail de Dike Ose depuis quelques années. Mm-hmm. Je sais qu'il avait accompagné aussi un peu l'émergence de la culture makerspace sur le continent. Et je sais aussi qu'il était revenu de cette fascination pour le modèle de la Silicon Valley. Et en fait, il a très bien compris qu'il fallait revenir au cœur de pratiques locales des technologies. Et il est donc allé travailler dans un lieu qui est assez emblématique des dégâts de la technologie et des effets négatifs de la technologie sur le continent africain, qui est Agboglossi, qui est connu comme une vaste déchetterie de matériel électronique au Ghana.
Oui.
Donc en fait, il a en allant à Agboglossi, il a créé un projet qui s'appelle Spacecraft, qui est en fait une unité de production, de recherche et de développement sur les possibilités de recycler les technologies numériques de manière moins polluante, donc de manière plus propre, on va dire, tout en disant qu'en fait, à Agboglossi, s'est développé un certain savoir-faire sur le recyclage des technologies numériques et qu'en fait, il faudrait pouvoir faire se rencontrer à la fois des professionnels formés de manière académique aux technologies et ces personnes qui vivent à Agboglossi, qui elles-mêmes, qui même malgré le fait qu'elles soient autodidactes, ont développé un vrai savoir-faire. Et qu'en fait, ce lieu qu'il appelle le Spacecraft, qui est une sorte de tiers-lieu où il emprunte un peu au vocabulaire de la science-fiction, c'est simplement cet espace qui va permettre de faire se rencontrer ces deux mondes qui ne se rencontrent pas, alors qu'ils ont plein de choses à faire en commun. Il va appeler ça une démarche à travers l'innovation Sankofa, en faisant référence au symbole Adinkra du Sankofa, qui est en fait un oiseau dont le corps est projeté vers l'avant et dont la tête est tournée vers l'arrière, en disant qu'on ne peut aller vers l'avant que si on a intégré, si on a bien compris son passé et les cultures qui nous précèdent. Et donc, il dit, voilà, il y a énormément de savoir, il y a énormément de savoir-faire à Agboglossi. Il faut déconstruire cette idée d'un lieu où tout le monde subit, mais en fait, c'est un lieu aussi d'innovation. Et il faut accompagner, en fait, le développement d'unités de production qui prennent en compte à la fois des savoir-faire locaux et les savoirs plus académiques des technologies numériques, et en faire un projet panafricain. Mmh. Et donc, à Dakar, on a invité Dike Ose et Yasmine Abbas à venir construire un spacecraft et à devoir le construire à Dakar avec le savoir-faire donc, des personnes qui ont travaillé au Ghana. Okay. Et donc, il y a eu un vrai transfert de savoir-faire entre l'équipe qui a construit le spacecraft Ghana et une équipe qui devait construire le spacecraft à Dakar. Et on a fait la même chose pour le ZKM. Donc, on a construit au Ghana un spacecraft qui est allé au ZKM et avec le qui en collaboration, qui aujourd'hui est en collaboration avec le makerspace local de Karlsruhe.
Super. Tout ça me rappelle que j'avais eu un entretien il y a 3 ou 4 ans maintenant avec Kofi Sename, oui, qui était la première personne à m'avoir renseigné sur Dike et sur Yasmine Abbas, effectivement.
Oui. En fait, Sename m'a beaucoup, et le Wellab et son approche, mm-hmm. m'a beaucoup instruite et m'a beaucoup inspirée. Aussi pour cette question de que j'avais appelée les utopies non alignées, parce que pour moi c'était vraiment l'exemple parfait. Je vais vous envoyer les textes d'ailleurs que j'ai écrit. J'avais écrit quand le livre de Falwinsar est sorti, Afrotopia, oui. Où justement je disais, mais voilà, par exemple, Sename pour moi c'est vraiment, et ce qu'il fait, c'est vraiment l'exemple d'une utopie non alignée, dans le sens où l'on ne veut pas s'aligner sur le... On veut créer quelque chose qui soit ancré sur des cultures du continent africain, mm-hmm. repenser la technologie à l'aune mm-hmm. des cultures africaines. Voilà.
Et de leur imaginaire. Ça me permet de revenir au cœur de notre discussion qui va porter maintenant sur le développement de la science-fiction et des pratiques culturelles en Afrique, quoi. Quel est pour vous le rôle de la science-fiction dans la création artistique contemporaine en Afrique aujourd'hui? Et comment est-ce que vous, mais vous l'avez évoqué plus tôt, comment est-ce que vous la distinguez ou la rattachez avec l'essor de l'afrofuturisme ces dernières années?
Là encore, moi, je pense qu'il y a deux temps. En fait, moi, quand je me suis intéressée à la science-fiction sur le continent africain, je me suis rendu compte que très peu d'artistes qui s'intéressaient à la science-fiction connaissaient ce que l'on appelle l'afrofuturisme, le terme historique, on va dire, et donc, en fait, venaient à la science-fiction par l'imaginaire de la science-fiction. Ça, c'était un premier temps. Et ce qui m'a intéressée, c'est que j'ai commencé à créer un corpus en fait d'œuvres, aussi bien littéraires, de designers, de fashion designers, d'artistes, en me disant mais de quoi ces productions sont-elles le nom? Est-ce qu'on doit les mettre toutes dans le même paquet? Est-ce qu'il faut pas en faire des distinctions? Est-ce qu'elles disent pas parfois des choses différentes? Et donc effectivement, mon premier constat, ça a été que très peu de ces personnes se revendiquent au départ, en tout cas sur le continent africain, de l'afrofuturisme. Qu'ensuite, les motivations sont extrêmement différentes, parce que je pense qu'entre un studio qui fait du jeu vidéo, un écrivain et un artiste plasticien, parfois les motivations pour lesquelles on va se servir de la science-fiction et même ce qu'on veut dire à travers la science-fiction est extrêmement différent. Ce qu'ils avaient tous en commun, c'était qu'il me semblait que cette esthétique était une esthétique, ils avaient choisi cette esthétique parce qu'elle était particulièrement pertinente pour rendre compte des mutations que vivait le continent africain, des mutations très tournées vers les technologies numériques et la science,
oui.
L'urbanisation aussi, un développement démographique et, oui. Et un essor, même si ça l'a toujours été, mais un essor peut-être sans précédent du marché. Donc, je trouvais qu'il y avait une sorte d'adéquation entre le développement d'une esthétique et cette esthétique pouvait dire quelque chose justement de l'ordre du continent. Après, dans les pratiques, pourquoi les artistes ou pourquoi des personnes se servent de la science-fiction, pour moi, je pense qu'il est très différent quand c'est un studio de jeux vidéo, parce que pour moi, ça épouse vraiment le développement de la société technoscientifique telle qu'on peut la vivre aussi bien à Paris, aux États-Unis ou en Chine. Voilà, on est dans ce modèle de l'industrie culturelle. En revanche, quand un artiste, par exemple, quand un réalisateur comme Jean-Pierre Beccolo fait un film qui s'appelle Les Saignantes, qu'il présente comme un film de science-fiction, ou comme quand un artiste comme François Knuts, qui est un artiste sud-africain, fait une série de films qui empruntent à l'esthétique de la science-fiction, qui s'appelle Cape Mungo, mais qui fustige la persistance de le grand fossé social et économique qui constitue de diviser les blancs et les noirs en Afrique du Sud. On ne se sert pas du tout de la science-fiction pour la même raison. D'un côté, on célèbre un peu cette société technoscientifique, et de l'autre, on montre, la science-fiction sert de critique. C'est le pas de côté, en fait, pour montrer comment cette société technoscientifique produit des monstres, en fait, qui restent des... Voilà, donc on est plutôt dans la critique. Donc, en fait, je n'ai pas tout mis dans le même paquet. Pourquoi je fais une différence avec l'afro? Je trouvais qu'on ne pouvait pas... juste tout mettre sous la bannière de l'afrofuturisme, parce que sinon ce serait de dire, bon ben voilà, tout ce qui est lié à l'Afrique et au futur, on va mettre ça sous une bannière qui s'appelle afrofuturiste. On n'a pas dit, mais moi je trouve très important de travailler à l'échelle de l'Afrique, même si je ne connais pas tout ce qui se passe sur le continent africain, mais je me revendique de cette échelle parce que, et là je m'appuie beaucoup maintenant sur le livre célèbre de Felwinsar, mais Felwinsar nous explique aussi que même si l'Afrique est un continent divers de 54 pays, ils partagent une même histoire et un même destin commun. Donc moi, j'adhère complètement à cette vision. J'adhère aussi à la vision panafricaniste qui consiste à penser que c'est une puissance de mobilisation politique sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer. Donc effectivement, l'échelle qui m'intéresse, c'est l'échelle du continent africain, même si, bien entendu, je ne suis pas une spécialiste de tout. Je ne suis pas très bien ce qui se passe en Afrique du Nord. Je ne suis pas très bien ce qui se passe partout. Mais en tout cas, j'ai cette aspiration à regarder à l'échelle du continent. Et en revanche, je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans le même paquet de manière indistincte. Et j'étais gênée quand on utilise le terme d'afrofuturisme, de dire, bon, ben voilà, tout ce qui se passe à l'échelle du continent, on va dire que c'est afro, on va mettre ça sous le label afro, et voilà. Depuis Black Panther, je dois dire que les choses ont changé, parce qu'en fait, la diffusion massive de ce film, bien entendu, a introduit une notion de l'afrofuturisme sur le continent, et effectivement, je pense que là, faut pas être étonné si des artistes ou des producteurs se revendiquent d'un certain afrofuturisme. Je pense que là, pour le coup, le film est porteur d'une certaine vision, se revendique comme un film afrofuturiste. Donc, je pense qu'il y a cette réception-là, effectivement, des gens. Peut-être que maintenant, il est un peu tôt pour vraiment voir ce que ça va donner au niveau des productions vraiment artistiques, même si, bien entendu, Black Panther empruntait déjà à une certaine esthétique, je dirais afro-punk.
Science ou fiction?
Alors, j'étais tellement intéressé par ce que vous dites sur les usages de la science-fiction dans les sociétés africaines où la science-fiction est revendiquée comme étant non pas un outil moderne, mais comme quelque chose auquel on fait usage en fait depuis très longtemps dans les sociétés traditionnelles. Et je me demandais si vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet usage-là de la science ou du coup de la fiction, de la science-fiction dans le passé.
Plusieurs choses. D'abord, quand j'allais sur le continent et que je rencontrais des personnes qui, pour moi, étaient des personnes qui avaient un intérêt pour la science-fiction, très souvent, la réaction que j'avais, c'était de dire « Oui, ok, mais en fait, mais nous, Ça fait très longtemps qu'on utilise des histoires qui ont à voir avec la science.
Et là, vous parlez d'extraterrestres, c'est ça qui m'a.
Ouais. Alors, ça, c'est particulièrement. J'ai fait référence particulièrement à une interview que j'avais faite en 2013 avec Wanuri Kayou, et qui est d'ailleurs sur Ram Ram, où après la sortie de son film Poumzi, donc je l'avais interrogée, et elle, justement, elle était très critique par rapport justement à cette question de l'afrofuturisme, d'ailleurs, au passage, et aussi. Quand je lui posais la question de est-ce qu'il y a une tendance comme ça au développement de la science-fiction sur le continent africain actuellement, elle m'avait répondu oui, c'est vrai, et en même temps, je questionne cette tendance parce qu'en fait, si on fait bien attention, nous avons toujours utilisé la science, nous avons toujours utilisé l'entomologie, nous avons toujours mis dans nos histoires des éléments de, je ne sais plus quelles étaient les sciences auxquelles elle faisait référence pour raconter nos histoires. Et elle disait aussi, nous avons toujours fait appel à ce qui était extraterrestre pour comprendre ce qui était terrestre. Nous avons toujours eu une conversation entre l'extraterrestre et le terrestre, qui effectivement est une sorte de science-fiction. Effectivement, je trouve ça assez beau, parce que tout d'un coup, on n'est plus dans les extraterrestres que la science-fiction nous les donne, mais elle est dans cette vision cosmologique du monde, où en fait, notre Terre n'est qu'une partie d'une capacité d'appréhension plus grande que nous ne sommes, en fait. Et je trouve ça effectivement très beau.
Et par extraterrestre, est-ce que elle faisait aussi référence à au monde spirituel et toutes aux pratiques rituelles et tout ça?
Oui, alors je me souviens plus exactement si dans cette interview, Wanuri Kayou faisait appel à ça, mais en revanche, Nnedi Okorafor, qui elle est, bon, elle est nigériane, mais c'est vrai qu'elle est née aux États-Unis, elle a grandi aux États-Unis, et je peux dire que sa science-fiction est très liée à la science-fiction d'Octavia Butler, par exemple, mais il n'empêche qu'elle explique en fait que dans la science-fiction telle qu'elle la conçoit, en fait dans ses romans de science-fiction telle qu'elle la conçoit, il est très important pour elle de faire appel à toute la culture des masques et des savoirs invisibles de la culture Igbo. Donc il y a vraiment une volonté de revenir au cœur d'une culture qui met l'invisible, qui met le surnaturel au cœur de ses recherches. Pour en revenir à d'autres, dans la première anthologie qui était sortie à Afro-SF, hein, j'avais aussi été frappée par certaines histoires. Par exemple, il y avait un des auteurs qui expliquait, qui revenait sur une cérémonie d'initiation des circoncis, donc qui rentrent dans la forêt, et en fait, dans cette cérémonie, les jeunes avaient aussi des implants, donc qui leur permettaient de voir les esprits, en fait, qui les entouraient aussi pendant cette cérémonie d'initiation. Donc il y avait vraiment ce jeu sur les niveaux ultra technologiques. Et en même temps, alors après, il faut faire attention en fait aussi de ne pas retomber dans un autre exotisme aussi, de là où on attend l'Afrique, sur des pratiques. Voilà, donc je dois avouer que je suis assez. À la fois, c'est un constat, qu'il y a un vrai désir comme ça de se réemparer d'une dimension forte en fait, et en même temps je pense qu'il faut faire attention à ne pas céder à une nouvelle façon de dire que voilà comment là-bas ils considèrent les technologies en fait. C'est pour ça que je suis de plus en plus intéressée par les recherches qui sont faites par des artistes comme Tabitha Reiser ou justement par Tegan Bristow,
oui.
En Afrique du Sud, mais elles ne sont pas du tout les seules,
oui.
Qui plutôt reviennent vers une archéologie des savoirs. Donc la personne Mavunga, qui a été aussi pas mal à MIT, qui eux revendiquent plutôt de faire des recherches sur les aspects culturels de la technologie, historique et culturel de la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on sait, comment on a développé une vision de la technologie sur le continent? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on peut réintégrer ces savoirs dans un savoir technologique contemporain, et comment on peut montrer en fait comment le continent a lui-même aussi un rapport à la technologie propre, à développer un rapport à la technologie. Par exemple, dans l'exposition au ZKM, on a montré le travail que Tegan Bristow fait collectivement en fait à partir du travail de qu'elle a appelé elle aussi autour des algorithmes vernaculaires, où ils sont allés reprendre la tradition d'emperlage de la région de Durban, qui correspond à des qui répond à des algorithmes en fait, à des modèles mathématiques pour c'est de la géométrie en fait, et tenter de comprendre comment quelles sont les techniques, et puis montrer que ce savoir qui est un savoir clairement scientifique et considéré comme scientifique n'est pas dissocié d'une dimension spirituelle, et de dire peut-être que justement une culture de la science et des technologies sur le continent africain aurait refusé de séparer le scientifique rationnel mathématique du savoir de sa dimension spirituelle ou au-delà de nous en fait, qui est plus grand que nous et qui est empreinte dans le savoir ou dans le concept mathématique. Mais j'en parle très mal, mais il faut absolument faire un podcast avec
Tegan,
parce qu'elle en parle extrêmement bien, puisque c'est tout un travail qu'elle développe, et les personnes avec lesquelles elle travaille. Mais je dois dire que pour moi, tout ça peut être aussi rattaché à la vidéo de Ron Eglash, qui a été, c'est pour ça que je la ramène quand même à la question des technologies numériques. Il y a des cultures, en fait, qui nous échappent un peu. Mais en 2007, il y a un TEDx qui, pour moi, est un peu historique, qui s'appelle le TEDx Arusha, qui est donc mené par... son nom va me revenir. Pour moi, ce TEDx est important parce qu'il y a des noms qui, déjà, vont marquer l'histoire des technologies numériques sur le continent africain, notamment Ori Okolo et Ron Eglash, qui justement fait sa fameuse conférence sur les algorithmes, les fractales, pardon, et qui en fait, à mon avis, on en est aujourd'hui là en fait. On est à ce moment où alors que l'histoire des technologies numériques a largement occulté l'apport d'autres cultures, d'autres rapports aux sciences, puisque l'histoire des technologies numériques est une histoire essentiellement européenne et américaine, blanche et masculine. Le travail autour de cette histoire, c'est de montrer comment d'autres cultures, et notamment les fractales, ont aussi nourri en fait ce qui a donné les technologies numériques, et de revenir en fait et de dire mais non, cette histoire elle est fausse, elle est partielle. Sur le continent africain, il y a aussi un travail qui peut rentrer dans l'histoire des sciences et des technologies. Et contrairement au discours qui a consisté à dire l'Afrique, c'est le next hub des technologies, c'est la next Silicon Valley, c'est plutôt de dire non, la Silicon Valley, on n'en veut pas, on ne veut pas copier.
Oui.
On veut remettre les choses à leur place et remettre l'Afrique dans cette histoire des technologies.
Oui. Quel rôle jouent les diasporas dans le développement de cet imaginaire?
Je pense que c'est un... J'invente rien là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment un brassage, en fait. On est à Dakar, on va faire ses études aux États-Unis. Aujourd'hui, on revient. Je pense qu'il y a eu un moment où on ne revenait pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on revient sur le continent africain ou l'inverse. On est né à Noisy, on fait ses études à Paris. Puis un jour, on se dit « Ok, c'est bon, je vais travailler à Dakar. »
Oui. Donc,
je pense qu'il y a une circulation. Il y a de nouveau une circulation un peu dans tous les sens et ça se nourrit effectivement. Après, j'ai tendance à me rattacher à l'idée effectivement qu'il y a un renouveau d'un certain panafricanisme dans lequel se retrouve aussi la diaspora. Et je pense par exemple beaucoup au travail de la philosophe Nadia Yala Kisukidi, qui justement pense le retour de la diaspora sur le continent africain comme un projet politique, avec ce désir en fait à la fois de redonner au continent, comme elle le dit elle-même, sa valeur de continent refuge, d'apporter aussi son savoir et de recevoir aussi quelque chose qui est d'une Afrique qu'on y idéalise toujours un petit peu quand on est en dehors, mais qui nous nourrit aussi.
Puisque vous venez de citer une femme et que vous avez ce projet qui s'appelle Afro-cyberféminisme, quelle est la part des femmes dans ce projet?
Un peu comme la question de l'Afrique, en fait, c'est, je pense qu'elle tourne entre survisibilisation et invisibilisation, et que c'est très difficile de savoir. Donc, Afro-cyberféminisme, c'est justement un cycle de recherche qui ne prétend pas apporter de réponse, mais qui dit, voilà, et si nous, si nous étudions ou si nous regardons les technologies numériques à travers justement ces critères, enfin, ou à travers ces entrées qui seraient la question du genre, la question des femmes, la question de l'Afrique et des diasporas, est-ce qu'on écrit une autre histoire?
La question de la race, vous indiquez dans le papier.
Oui, parce qu'en fait, elle a été beaucoup. Ces sections ont été beaucoup reliées sur le continent américain, notamment autour des Black Studies.
Oui.
Et il y a beaucoup plus de chercheurs qui, aux États-Unis, se posent la question de la dimension, qu'est-ce qui reste de la race dans la question des technologies numériques, qu'on nous a toujours présenté comme colorblind, c'est-à-dire comme indifférente à la couleur de la peau, alors qu'en fait, il y a tout un champ de recherche et de savoir théorique qui justement nous montre que ce n'est pas le cas et qu'il y a des biais ou même voire des pratiques qui reconstruisent. Donc il y a tout un travail en fait de déconstruction plutôt de cette mythologie de la technologie comme totalement indifférente à la couleur de la peau.
Écoutez, merci beaucoup Limata Gueye, merci beaucoup pour votre participation et j'espère à très bientôt.
Merci à vous et à bientôt.
L'Afrique à l'envers.
Upside down Africa.